Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce soir à 20h, Emmanuel Macron devra d'une manière ou d'une autre répondre à une question. Pourquoi la vaccination avance-t-elle au ralenti en France ? La pression monte, elle vient de la classe politique, de la droite, de la gauche, des élus locaux, mais surtout de la communauté scientifique, comme cette interpellation de l'Académie de médecine aujourd'hui, qui dénonce, elle aussi, un démarrage trop lent. Alors, il n'est plus temps d'attendre, disent les médecins, qui voient la vaccination accélérée à l'étranger. L'épidémie, naturellement, plombe encore les perspectives pour 2021, avec un début d'année qui va commencer, pour certains, avec un couvre-feu à partir de 18h. Alors, pourquoi la France prend-elle son temps en matière de vaccination ? Se trompe-t-elle de stratégie ? Le président va-t-il entendre l'appel et peut-être accélérer ? Que faut-il attendre de ses voeux ? Vaccination Macron dans la seringue, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Dans votre dernier numéro, on peut retrouver un dossier sur les premiers vaccinés français. Et puis nos pensées ce soir vont à la famille et aux proches et à l'ensemble de la rédaction de Paris Match et aux proches d'Olivier Royan, directeur de la rédaction de Paris Match, souvent invité dans C'est dans l'air et décédé la nuit dernière. Brice Teinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Avec nous ce soir, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Votre édito de lundi était consacré à la campagne de vaccination avec ce titre, un immense défi. Vous nous direz si vous considérez qu'il est relevé dans les minutes qui viennent. Soazie Kemener, vous êtes rédactrice en chef au service politique de Marianne. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à cette émission en direct. 300 personnes à peu près vaccinées en France, 130 000 en Allemagne, on a commencé le même jour, plus de 2 millions aux États-Unis naturellement, ils ont commencé un peu avant nous. Pourquoi est-ce qu'on a pris un tel retard, Bruno, jeudi ?
Alors d'abord, il paraît que c'est normal, puisque le gouvernement assume cette lenteur, qu'il y a du calage à faire, du rodage, mais que ça devrait aller mieux lundi. On s'interroge, en tous les cas, on l'espère fortement, parce qu'il ne faudrait pas, en plus, après avoir planté les masques et les tests, planter les vaccins. Donc c'est très important. Normalement, lundi, on vérifiera, on nous parle de 15 000 vaccinés par jour, puisque c'est le rythme qu'il faut tenir pour pouvoir être dans les clous des objectifs gouvernementaux, puisque le calendrier est connu, 1 million de personnes en janvier, 14 millions d'ici le printemps, donc il n'y a pas de temps à perdre. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ? Parce que c'est vrai que depuis 2-3 jours, on est tous un peu surpris, pour ne pas dire atterrés, par le fait qu'en France, on n'arriverait pas à transporter les doses. Alain Fischer, le monsieur vaccin du gouvernement, nous dit que c'est difficile à transporter, que c'est difficile à conserver, que ça prend du temps pour acheminer les doses de vaccins et que c'est compliqué. On espère que ce n'est pas le cas, parce que les Allemands arriveraient donc, les Italiens, les Espagnols arriveraient à les transporter et pas nous. Je crois qu'il y a d'autres pays où ça ne se passe pas très très bien aussi, donc il faut le dire. Par ailleurs, il semble que les grands frigos que le gouvernement a commandé, selon un préfet que j'ai eu, il soit encore en attente d'homologation. Donc en fait, ce serait lié à un problème un peu administratif, sans doute, et c'est pour cela que les doses seraient pour l'instant pas acheminées en nombre suffisant vers les départements, puisque c'est quand même une opération où la France a fait le choix que ce soit les vaccins qui aillent vers les patients en EHPAD et pas les patients qui aillent vers le vaccin, ce qui est quand même le cas de l'Allemagne, où au fond, les gens se déplacent pour aller se faire vacciner, alors que là, c'est le vaccin qui se déplace.
Oui, mais on nous avait dit qu'il ne fallait pas faire ce qu'on avait fait au moment de la grippe H1N1, que ça n'avait pas marché, etc. Donc,
Moi, j'ai le sentiment que la stratégie française a beaucoup reposé sur les leçons qui ont été tirées d'H1N1, peut-être trop. Je crois que c'est deux situations qui ne sont peut-être pas comparables, parce que le choc en France a été tel avec le nombre de victimes, ça n'a rien à voir. Et peut-être que le gouvernement a peut-être un peu trop les hésitations des Français à se faire vacciner, se transforme peut-être en hésitation finalement gouvernementale, et à vouloir trop écouter peut-être les gens qui sont réticents. On va peut-être créer de l'impatience du côté de ceux qui ont envie de se faire vacciner et qui sont quand même très nombreux.
Le problème, Yves Tréhard, c'est qu'on a le ministre de la Santé qui dit attention, c'est une stratégie, on a décidé de ne pas se hâter, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est pas parce qu'on ne serait pas prêt, c'est pas parce qu'on serait mal organisé, c'est parce qu'on n'aurait pas les frigos ou même qu'on n'arriverait pas à gérer un vaccin qu'il faut stocker à moins 80, c'est parce qu'on l'aurait choisi.
Oui, c'est effectivement parce qu'on l'aura choisi. C'est ce qu'il essaye de nous faire croire, et on veut le croire simplement. ce retard vaccinal donne de l'eau au moulin finalement de tous ceux qui participent à cette hésitation vaccinale. On sait que la France est un des pays au monde où la vaccination est la plus mal, je dirais, considérée, où il y a beaucoup d'hésitation. Et donc, en étant trop prudent, trop patient, on fait passer aussi un message que ce vaccin n'est peut-être pas très sûr et qu'on attend de voir s'il n'y a pas des effets secondaires qui pourraient se faire ressentir. Or, je pense que c'est une mauvaise stratégie, que la bonne stratégie, effectivement, c'était d'ouvrir des vaccinodromes comme en Allemagne. On a vu le précédent, effectivement, de la grippe H1N1 qui nous avait refroidi et qui avait refroidi les autorités en disant « c'est peut-être pas comme ça qu'il faut aller ». Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une grosse interrogation dans la population. Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie même, eh bien, on s'aperçoit que puisque cette épidémie est en train de plomber complètement la marche des pays, des nations et l'économie mondiale, eh bien, on aurait pu s'attendre à ce que cette campagne vaccinale aille beaucoup plus vite. Et puis, il ne faut pas oublier que le gouvernement est vraiment sous pression parce que l'affaire des masques est restée dans les mémoires. Ça a été un échec, un raté complet qui a confiné quasiment au mensonge d'État. Et puis, l'opération de dépistage a été aussi assez chaotique. Elle n'a pas vraiment marché. Le tester, tracer, isoler n'a pas marché aussi bien en France que dans d'autres pays. Donc là, je dirais que si lundi prochain, eh bien, les chiffres montrent que la vaccination progresse beaucoup plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, tant mieux. Mais en attendant, on peut se poser pas mal de questions.
Vous posez des questions, vous aussi, Brice Teinturier, comme nous tous, sur le rythme de la campagne de vaccination. On rappelle qu'on l'a attendu, ce vaccin, qu'on a anticipé, qu'on nous expliquait qu'il y avait la présentation de la stratégie de vaccination, que tout ça était évidemment calé avant l'arrivée du vaccin.
Non, mais bien sûr qu'on voit bien que la France est en retard par rapport à de nombreux pays. On en a cité quelques-uns. Israël aussi a déjà vacciné plus de 360 000 personnes. Ouais. Le taux, d'ailleurs, apporté à la population globale en fait le pays qui s'est le plus vite vaccinés. Donc il se passe quelque chose de spécifique en France qui a trait au choix. Ce sont des choix, effectivement. Le choix d'aller dans les EHPAD d'abord, c'est pas le choix qu'ont fait tous les pays non plus. Donc il y a ces éléments-là.
Qui est contesté, ce choix, désormais.
Qui est contesté, tout
à fait.
Par
les soignants, notamment.
Les soignants qui ne seront dans la première vague de vaccinés qu'à partir de 50 ans, alors qu'ils sont quand même en front line et les plus susceptibles d'être contaminés. Donc à 48 ans, vous pouvez quand même avoir quelques séquelles si vous êtes soignant. Donc il y a des choix. Et puis je pense qu'il y a une erreur de diagnostic sur l'état de l'opinion. Parce qu'il est vrai que nous sommes un des pays les plus hésitants par rapport à ce vaccin, mais ce qu'on oublie de dire à chaque fois, donc que je m'efforce de rappeler, c'est que les Français, ces mêmes Français qui vous disent « non, je ne suis pas sûr de me faire vacciner ou je ne veux pas me faire vacciner », sont aussi de tous les pays ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes, de leur choix. Ils sont les moins sûrs de leur choix. Donc c'est en réalité une catégorie de la population qui peut rebasculer. Moi, je ne pense pas du tout que nous aurons uniquement 44% ou 50% de Français qui se vaccineront. Simplement, ils se posent des questions. Et le fait d'attendre à ce point et de prendre tant de précautions, à mon avis, produit un effet inverse.
C'est précisément ce que dit Axel Kahn. Hein. Il dit on va convaincre les Français que si on va lentement, c'est qu'il y a un problème et un danger.
Oui. Et là, je crois qu'il y a eu une crainte de la part du gouvernement de vouloir trop brusquer une opinion publique présentée comme rétive. Elle est hésitante, c'est incontestable, mais c'est plutôt l'effet d'entraînement, l'effet de preuve qu'elle attend. Plus il y aura de gens vaccinés, plus les Français, comme les autres habitants, se rendront compte qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et plus, ça les incitera à aller se faire vacciner.
Vous parliez de précautions, Soazic Kemener. Dans la déclaration de l'Académie de médecine, il y avait l'idée qu'on n'avançait pas assez vite. Et puis, il y avait aussi cette phrase. L'Académie de médecine dénonce donc le démarrage trop lent et des précautions excessives, y compris sur la façon dont les choses se passent dans les EHPAD, avec cette période de consentement avant la vaccination, cette consultation avec les médecins.
Oui, et ça, c'est vraiment une spécificité française. Hein. C'est aussi ce qui fait le fossé entre les chiffres français et les chiffres allemands, par exemple. Et ce qui est très étonnant, en fait, c'est que si on reprend le premier discours de Jean Castex du 3 décembre sur la stratégie vaccinale, il se gargarise, il explique que la France a été leader puisqu'elle a demandé à ce qu'il y ait une task force vaccin pour l'achat de vaccins, mais de manière à l'échelle européenne, pour pas qu'il y ait de distorsion de prix, notamment entre les différents pays. Et il explique bien que du coup, les vaccins livrés à chaque pays arrivent au même moment pour des quantités fixées au prorata de la population. Donc nous, c'est 15% de toutes les doses européennes, c'est 15% pour la France. Donc ça veut dire que tout le monde part sur le même pied d'égalité en fonction de son pourcentage de population. Donc c'est vraiment les chiffres qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment en toute transparence les choix gouvernementaux. Donc on voit bien,
Mais qui sont, pardonnez-moi, je vous coupe, Swazi Kemener. Vous parlez de choix gouvernementaux. À l'heure où on se parle, après ces prises de position de l'Académie de médecine, mais il y en a eu d'autres, il y a eu des prises de position à droite, à gauche, à Anne Hidalgo cet après-midi, qui dit nous sommes prêts, j'espère que ça va aller plus vite, la maire de Paris. Est-ce que là, on est toujours dans ce qu'a déclaré Olivier Véran cette semaine, c'est-à-dire on assume, on prend notre temps, ou est-ce que vous sentez que les choses sont en train de bouger un petit peu ?
Alors, l'agacement d'Emmanuel Macron est en train de fuiter parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Hein. C'est ce que rappelait Yves Tréhard tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est, c'est pas la première étape de cette épidémie, c'est pas la première étape de gestion remise en cause de cette épidémie. Oui. Donc, il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il y a certains de ses conseillers qui lui ont dit, à partir du moment où on a su qu'on allait avoir accès à un vaccin, qu'ils lui ont dit que s'il ratait la vaccination, il ratait l'élection présidentielle, que c'était vraiment donc il sait que c'est une étape vraiment cruciale dans la manière dont il peut réinstaurer la confiance sanitaire des Français. Donc c'est en train de bouger un petit peu dans le sens où on entend qu'il va y avoir des prises de parole. Alors il y a Emmanuel Macron va bien entendu s'exprimer ce soir, mais ça devrait être assez bref. Enfin, on verra tout à l'heure. Mais il y a des ministres qui vont s'exprimer dans la foulée, pas aujourd'hui, mais sans doute demain, justement pour donner des précisions, parce qu'on sent bien au gouvernement que l'opposition est en train de s'engouffrer dans la brèche, que les diagrammes qu'on peut voir sont vraiment éloquents et que même si c'est difficile de comparer avec, par exemple, ce qui se passe au Royaume-Uni, puisque la vaccination a commencé le 8 décembre, c'est vraiment avec l'Allemagne ou même l'Italie que le problème se pose. Et c'est vraiment visible pour tous. Et il y a vraiment la crainte qu'à un moment, les Français se disent « mais on a encore raté ça, le sentiment de déclassement, on n'arrivait pas à avoir des masques, on n'arrivait pas à avoir des blouses, et maintenant, on n'arrive pas à distribuer ce vaccin qu'on possède pourtant, même si ce n'est pas en quantité évidemment suffisante au moment où je vous parle, pour faire, et c'est pareil en Allemagne d'ailleurs, pour qu'il y ait une stratégie de vaccination globale, évidemment tout de suite, puisqu'on est soumis à la production des différents vaccins. »
En sachant que l'argument massue des scientifiques et des médecins, c'est de dire « il y a des vies hein, ». Au bout du compte, c'est pour ça qu'il y a cette course contre la montre, c'est pas juste de la posture. On parlait à l'instant d'Emmanuel Macron et de peut-être de cet entrefilet dans le canard enchaîné, laissant entendre que le président, et on verra ce qu'il en dit ce soir, était agacé par le fait que ça n'aille pas assez vite.
C'est-à-dire qu'il a bien compris d'abord l'enjeu d'image qui est qu'il est en train au moins de brouiller le début de cette campagne vaccinale. Or, ça vient d'être dit, elle est fondamentale. J'allais dire, après la gestion sanitaire est critiqué depuis le début, mais au fond, les Français se rendent bien compte que c'est pas si facile, que oui, il y a eu les masques, mais ailleurs, c'était pas si simple. Là, sur la vaccination, j'allais dire, c'est l'occasion peut-être pour lui de faire un reset et d'effacer ce qui s'est passé avant, et en la réussissant, il peut, au fond, j'allais dire, rafler la mise et se mettre dans une position qui sera à son avantage, au moins sur le plan sanitaire. Après, il y aura la stratégie économique. Donc, c'est pour ça qu'il ne doit pas rater. Dernier point, les ministres eux-mêmes commencent à s'interroger. Certains ministres, et une d'entre elles que j'ai eue cet après-midi, veut proposer à Emmanuel Macron que tous ceux qui ont plus de 60 ans se fassent vacciner pour montrer l'exemplarité aussi du gouvernement, parce que finalement les gens se disent mais s'ils y vont pas, ça alimente le côté, mais est-ce qu'il est si bien que ça ce vaccin?
Et ça, on va y revenir parce qu'il y a eu un appel des maires qui va précisément dans ce sens-là. 5 jours après le début de la campagne de vaccination en France, on l'a bien compris depuis le début de l'émission, la pression monte sur le gouvernement et sur le président de la République, la classe politique, les élus locaux, mais aussi ce matin l'Académie de médecine qui dénonce donc la lenteur de la campagne de vaccination et des précautions excessives, ce sont les mots utilisés. Le ministre de la Santé, lui, assume une stratégie qui repose avant tout sur la prudence et la confiance. Rémi Barjavel, Nicolas Baudry-Dasson.
À Bobigny, en Seine-Saint-Denis, 40 résidents de cet EHPAD ont été vaccinés hier sur plus de 80. Pour le personnel soignant, il faut convaincre et ça prend du temps.
Ils ont aussi l'impression d'être cobayes, c'est-à-dire, ça y est, ça arrive, c'est tout nouveau, on sert de cobayes. Donc là, de nouveau, on leur explique, non, les cobayes, en fait, c'était les 43 000 personnes qui ont participé à l'étude, déjà. Il faut prendre le temps d'expliquer.
Lancée depuis dimanche dernier, la campagne de vaccination française prend son temps. Les doses sont distribuées au compte-gouttes par rapport à d'autres pays. Les États-Unis, par exemple, ont déjà administré plus de 2 700 000 doses de vaccins contre le Covid-19. Le Royaume-Uni, 800 000. L'Allemagne, 130 000. La France et ses quelques 330 doses administrées fait pâle figure. Des chiffres et une stratégie assumée par le ministre de la Santé mardi.
Les Allemands ont fait un choix, ils ont mis en place des grands vaccinodromes. On avait essayé en 2011 en France, ça n'avait pas marché. Et nous avons fait en France un autre choix que je revendique, qui est de nous appuyer sur les médecins, sur les professionnels de santé, et de vacciner les personnes âgées en EHPAD, et non pas de les faire se déplacer, par exemple. Et donc, ça prend un peu plus de temps au démarrage. Ce délai, je l'assume, il est même revendiqué.
Une stratégie largement critiquée dans l'opposition. À droite, Damien Abad et Éric Ciotti demandent l'audition en urgence du ministre de la Santé au Parlement. La France perd trop de temps, selon eux.
La France ne peut être l'un des derniers pays à se faire vacciner. C'est pourtant cette perspective qui se dessine aujourd'hui.
À gauche, le sénateur PS, Rachid Temal, pointe une fois encore la défaillance du gouvernement.
Pourquoi ce retard en France ? Après les masques, les tests, voici venu le temps du vaccin. Ce gouvernement aura toujours été en retard.
Pas de retard pour Alain Fischer ? Le monsieur vaccin du gouvernement qui défend cette première étape de vaccination en douceur dans les EHPAD. La deuxième étape commencera en janvier. La vaccination sera alors élargie aux professionnels de santé âgés de 50 ans et plus ou qui souffrent de maladies.
Ce qui est, à mon avis, sage, c'est de commencer cette campagne progressivement, ce qui permet de faire en sorte qu'elle se passe dans les meilleures conditions de sécurité, les meilleures conditions aussi éthiques, par exemple, que les personnes vaccinées aient le temps de donner leur consentement à ce qui constitue cet espoir.
Un excès de prudence, alors que l'objectif est de vacciner 1 million de personnes d'ici la fin février 2021. C'est ce que pense le généticien Axel Kahn, qui regrette le manque d'allant du gouvernement.
Certes, il faut jouer la prudence, la transparence. Il faut naturellement ne pas rendre obligatoire la vaccination. Mais de l'enthousiasme, que diante, de l'enthousiasme.
Faire preuve d'enthousiasme, alors que les Français sont plus que jamais méfiants. La communication du gouvernement n'est pas la bonne pour certains élus locaux. Dans une tribune, 200 maires de tous bords politiques déclarent vouloir se faire vacciner pour donner l'exemple.
Dimanche, sur le marché de centre-ville de la ville de Poissy, sur 10 personnes rencontrées, il y en a 6 qui me demandent, première question, monsieur le maire, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Donc l'idée, c'est de constater d'abord qu'il y a plus d'un Français sur deux qui ne veut pas se faire vacciner et que si nous pouvons être, comme nous l'avons été depuis le début de cette épidémie, des courroies de transmission et pas des chaînes de déraillement, alors je pense qu'il n'y a aucun état d'âme à avoir.
Pour les vœux traditionnels de fin d'année, Emmanuel Macron s'adresse ce soir aux Français, avec un défi, celui de les convaincre aussi. Selon un récent sondage, ses chers compatriotes sont les plus réticents d'Europe à se faire vacciner.
Avec la nuance que vous aviez expliquée tout
avec
à l'heure.
Hein. Tout à fait. C'est une enquête Ipsos qu'on a réalisée dans le monde et en Europe. Donc, effectivement, nous faisons partie des pays les plus hésitants vis-à-vis du vaccin. Mais ceux qui hésitent ne sont pas sûrs de leur choix. C'est-à-dire qu'ils sont aussi, de tous les pays, ceux qui sont les moins sûrs de leur choix.
Ils demandent à être convaincus,
donc, ils se posent des questions, ils demandent à être convaincus. L'écart entre le socle irréductible d'anti-vaccin et ce que nous mesurons aujourd'hui, il est dû à cette hésitation. Mais ça veut dire qu'il n'est pas irréductible, que vous pouvez avoir un basculement dès qu'on aura de plus en plus de preuves de toute une partie de ces gens qui aujourd'hui hésitent. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il faut au contraire activer, accélérer les choses pour prouver, pour démontrer que ça se passe bien.
C'est toute la problématique du gouvernement. Comment les convaincre, ceci ? Est-ce qu'il faut, comme le laissait Antoine tout à l'heure Bruno jeudi, par exemple, mettre en scène la vaccination 200 maires disent « vaccinez-nous ». Comme ça, les gens verront qu'ils peuvent avoir confiance. Est-ce que ça, le fait qu'il y ait des ministres, des élus qui se fassent vacciner devant les caméras, est-ce qu'à votre avis, ça peut les convaincre ?
Ça peut aider. Moi, je pense que les 200 maires ont raison, qu'il y a une valeur d'exemplarité du politique qui peut aider. Alors, bien sûr, on voit le procès qui pourrait leur être fait. Ils ne font pas partie des personnes prioritaires. Donc, pourquoi eux se feraient vacciner avant d'autres qui pourraient en avoir plus besoin ? Mais il y a quand même là une valeur d'exemplarité qui est très importante. Je crois que pour les Français, par rapport à la période de mars, il y a quelque chose de radicalement différent. En mars, on ne savait pas énormément de choses sur ce virus. Et les Français l'avaient bien compris, cet état d'incertitude de la science, de la transmission, etc. Donc ils pouvaient être déjà un peu plus indulgents, et ils ne l'étaient pas beaucoup. Mais aujourd'hui, sur le vaccin, il n'y a pas d'incertitude. On sait, pardon de le dire de manière aussi peut-être péremptoire, mais les essais cliniques ont eu lieu, la vaccination à grande échelle se fait. Et donc, je pense que le jugement de l'opinion, s'il y a un retard grandissant, peut être beaucoup plus sévère encore.
Et vous voyez, pendant qu'on parle de la stratégie du gouvernement sur la vaccination, Olivier Véran vient de déclarer à l'instant que dès février, il y aura l'ouverture de 100 centres de vaccination. Et à partir de lundi, vous le disiez à l'instant sur les soignants, bah les soignants de plus de 50 ans seront vaccinés. Yves Tréhard voulait peut-être commenter ces annonces d'Olivier Véran. On voit bien qu'ils font rapidement un virage sur l'aile, comme on dit.
Il y a un virage sur l'aile parce que je pense qu'effectivement, là, il y a le début, si vous voulez, d'un doute qui s'installe au cœur du gouvernement. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que, décidément, le pouvoir exécutif, et c'est pas une nouveauté, a peur de l'opinion publique. Ils avaient peur, effectivement, de cette hésitation vaccinale qui traverse le pays, même si les explications de Brice viennent tempérer cette hésitation vaccinale, mais quand même, elle est très, très présente. Et on sent que, il y a une peur de l'opinion publique qui est grave, parce que ça ajoute à la défiance qui se creuse dans notre pays entre, d'une part, les décideurs et, d'autre part, la population. Et ça, c'est politiquement tragique.
Pardon, dites ça, Yves Tréhard ? Les gens qui vous écoutent ce soir peuvent se dire ils ont peur ou alors ils écoutent l'opinion publique ?
Non, je pense que là, en l'occurrence, si vous voulez, ils écoutent, mais ils n'entendent pas aussi l'opinion publique. Et cette opinion publique, on est parti avec cet a priori d'hésitation vaccinale. Et comme le dit Brice, cette hésitation vaccinale, elle est peut-être beaucoup moins prégnante qu'on ne le croit dans le pays. Et même si vous avez une petite minorité d'anti-vaccins, vous avez des gens qui se disent écoutez, on en a assez de ce Covid, on en a assez de cette épidémie, on est en train de mourir économiquement, il faut impérativement que notre pays reparte. Et quand on voit et quand on se compare, parce que c'est toujours quand on se compare, généralement on se console, et là quand on se compare,
on s'envole.
Parce qu'on se désole, parce que quand on se compare avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec Israël, avec les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, qui ont aussi, eux, connu des ratés dans la gestion du Covid, eh bien nous, on se dit que cette troisième étape, elle est capitale. Les Français en ont tout à fait conscience. Et je pense que le gouvernement doit accélérer grandement, parce que de nous dire qu'il y aura 1 million de vaccinés d'ici au mois de février, ce n'est pas satisfaisant. C'est maintenant qu'il faut agir.
Est-ce que la question qu'on peut se poser ce soir, Bruno Jeudy, c'est est-ce que c'est une forme de réactivité, justement parce que ça, les choses s'annoncent plutôt de manière trop lente, une campagne de vaccination trop lente. Est-ce que c'est de la réactivité ou c'est un gouvernement qui navigue à vue? On peut l'entendre aussi, cette critique-là, qui est portée notamment par la droite, qui trouve qu'il y a beaucoup d'improvisation dans la gestion de cette crise. Et d'ailleurs, pardon, ça fait une question un peu longue, mais je rajoute celle de Gérard dans les Bouches-du-Rhône, qui dit « Après les masques, les tests, va-t-on démontrer notre incapacité à gérer les vaccinations ?»
Je crains, pour répondre à votre question, que ce soit un peu les deux, parce que notre formidable administration de la santé n'est pas exempte de reproches, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la première partie de la crise sanitaire. D'où l'inquiétude qu'on peut avoir avec ces débuts extrêmement cafouilleux de la campagne vaccinale. Alors ça se passe pendant les fêtes, on va peut-être mettre ça sur le compte d'une administration qui est insuffisamment mobilisée peut-être. Il y a l'histoire des frigos qui n'est sans doute pas neutre. Des frigos, ils ne sont pas encore homologués. Donc ça aussi, ça semble... Puis il y a la question vraiment du transport. Mais après, moi, je suis très surpris par l'absence totale, finalement, de véritables campagnes de pédagogie pour expliquer, pour rassurer sur ce vaccin. Au fond, bon, c'est vrai qu'en France, il y a une minorité d'anti-vaccins. Ça n'a rien de s'occuper d'eux, finalement. Ils seront contre. Après, Brice a bien expliqué, il y a toute une partie de la population qui veut se faire vacciner, qui est impatiente. Et puis après, il y a une partie hésitante. Cette partie, il faut la convaincre. Et pour la convaincre, il faut employer tous les moyens. Or là, on a l'impression que le gouvernement est tellement hésitant qu'il est en train de fabriquer lui-même l'impatience.
Hésitant,
je vais vous dire, hésitant pourquoi ? Parce qu'on est en train de découvrir à la faveur de cette crise sanitaire que nous vivons dans un pays un peu fou, où la précaution est devenue la règle de manière excessive, où aussi les responsables de ce pays vivent avec la menace judiciaire, donc ils prennent beaucoup de précautions, beaucoup, beaucoup. L'histoire du consentement, c'est assez fou, parce qu'il y a des précautions qui sont prises qui sans doute alourdissent les procédures, et tout ça combiné fait que cette campagne, elle se met en place, j'allais dire, difficilement, dans la douleur, avec sans doute du temps. Il faut vraiment espérer que, là, en début de semaine prochaine, on soit pied au plancher, ce qu'on n'est pas aujourd'hui, contrairement à la plupart de nos voisins, même si, encore une fois, il faut le redire, il faut toujours tempérer aussi nos jugements en France. Dans certains pays, ça ne fonctionne pas si bien que ça, le début de la campagne vaccinale.
Et quand vous entendez parler, je le disais à l'instant, de l'annonce de centres de vaccination de la part d'Olivier Véran ?
Ça va plutôt dans le bon sens. Bon. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il va falloir aussi que le vaccin, c'est pas les vaccins qui doivent aller vers les Français, mais c'est les Français qui vont devoir aller vers le vaccin. Si on veut faire une campagne massive, encore une fois, on nous parle de millions de gens à vacciner. Je rappelle que l'immunité générale sera atteinte quand on sera autour de 60% des Français. Donc on en est quand même loin. 15% sur l'ensemble de la France, 25% à Paris.
Brice Teinturier, ce qui tient non rigueur, à votre avis, les Français, de la même manière au gouvernement, pour les masques, les tests et à la fois cette campagne de vaccination, est-ce que les choses sont un peu différentes selon les sujets ?
Moi, je pense qu'elles seront encore plus radicales. C'est-à-dire que là, pour le coup, sur la question de la vaccination, le gouvernement a encore moins le droit à l'erreur qu'au tout début de la période de la pandémie, où il y avait encore une fois beaucoup d'incertitudes. L'incertitude, elle est vectrice d'anxiété, mais elle est compréhensible par les Français si on leur explique qu'effectivement, il y a beaucoup de choses nouvelles qui déboulent et qu'on ne sait pas. Aujourd'hui, encore une fois, sur la question du vaccin, il y a un consensus scientifique, ce qui n'était pas le cas sur d'autres aspects. Souvenez-vous, pour les masques, tout au début, l'OMS elle-même disait « non, les masques, ce n'est pas forcément utile ». Donc là, il y a un consensus. Et c'est pour ça que je pense que l'opinion pardonnera moins si vraiment on est très en retard, parce que ça se paye en mort. Hein, il faut aussi revenir à la réalité, c'est plus de morts potentielles, qu'elle pardonnera encore moins des hésitations ou un principe trop précautionneux si on a une solution. Quand on se dit qu'il va falloir 6, 7, 8 mois alors qu'on a la solution technique pour que le pays soit vacciné dans des proportions suffisantes pour sortir de cette période à laquelle les Français tous aspirent à sortir, c'est quand même un décalage temporel qui est phénoménal et qui sera difficilement, je crois, pardonnable s'il n'y a pas une accélération et une montée en puissance pour sortir de cette période.
En tout cas, dans la classe politique et auprès de la communauté scientifique, la réaction est arrivée très vite, puisqu'on a commencé la vaccination il y a 5 jours seulement, et l'impatience, elle s'est exprimée dès aujourd'hui. Swazik Kemener, est-ce qu'il y a un changement de stratégie dans la gestion de la pandémie, avec l'idée d'un couvre-feu qui débuterait après la Saint-Sylvestre, le 2 janvier, à 18h pour des zones localisées, et un gouvernement qui dit qu'il n'y aura plus de reconfinement national?
Alors, pour l'instant, Olivier Véran dit effectivement qu'on est dans cette approche-là. C'est ce qu'il a annoncé mardi dernier sur France 2. En revanche, on n'a pas de certitude absolue sur les décisions qui peuvent être prises la semaine prochaine, puisqu'on sait bien qu'on va attendre que le temps soit passé après les fêtes de Noël pour savoir où on en est. Ce qu'on me donnait comme date possible, c'était autour du 10 janvier. On saura exactement où on en est et là, on pourra prendre des décisions. Parce que, évidemment, toute la question, c'est qu'on va arriver à un moment où il va y avoir une pression sur les vaccins, peut-être pas assez de vaccins, et puis peut-être à gérer l'éventualité d'un nouveau confinement. Donc ça va être un moment politique assez difficile à passer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit qu'il y a une réaction aujourd'hui politique, même avant l'intervention d'Emmanuel Macron, réaction d'Olivier Véran. Bon, ça fait quand même 4-5 jours, ça fait depuis lundi que la petite musique, 4 jours que la petite musique monte. Ils ont réagi plus vite qu'ils ne le faisaient au début du quinquennat, mais ils ont quand même mis du temps à réagir. Donc ça, c'est quand même des signaux politiques qu'il faut observer. Ouais. Pour ce qui est de la pandémie, les chiffres, les scientifiques le disent, ne sont pas rassurants. On est encore dans l'hiver. Angela Merkel a fait des vœux aujourd'hui qui sont très très pessimistes, en disant que l'année elle est très difficile pour les Allemands aussi. On a du mal à imaginer qu'Emmanuel Macron évoque ce soir des jours heureux. Donc il y a encore tout ça à gérer, c'est-à-dire qu'il y a le vaccin, mais il y a encore tout le reste. C'est-à-dire qu'on est une nouvelle année, il y avait une dépêche AFP aujourd'hui qui s'appelait comme ça, ça disait nouvelle année mais ancien problème, c'est-à-dire c'est encore les problèmes de 2020, plus le problème de la vaccination en plus à gérer. Donc effectivement, là on est sur des confinements locaux parce que c'est une nouveauté, il y a une demande des élus. On sait que les mesures différenciées s'étaient fait un peu contre les Marseillais quand ça avait été annoncé à la fin de l'été. Là, c'est une nouveauté. Il y a une forte demande des élus de l'Est pour qu'il se passe quelque chose. Alors, ça n'a pas été un confinement, c'est un couvre-feu, mais c'est mieux accepté dans la mesure où les élus l'ont demandé, que ce soit dans l'Est ou dans les Alpes-Maritimes. D'ailleurs, Christian Estrosi avait demandé ce confinement, enfin, s'est réjoui de ce confinement. Donc, il y a un soutien des élus sur ce point-là précis qui n'était pas présent à la fin de l'été.
Effectivement, c'est un changement de stratégie ou est-ce que c'est un ajustement, le fait de passer par des mesures davantage locales? Vous parliez de Christian Estrosi. Il a plutôt rendu hommage, lui, à la gestion de la crise en disant que le ministre de la Santé était à notre écoute. Il a obtenu le couvre-feu anticipé et le lancement d'une campagne de vaccination.
Mais c'est-à-dire que la sortie de cette deuxième vague, on n'y est pas encore tout à fait. On voit bien que la carte de France est assez nette. Vous avez en gros des Ardennes, des Alpes-Maritimes où le taux d'incidence reste élevé. Et puis vous avez tout le littoral atlantique, toute cette partie ouest de la France qui coupe pratiquement la France du nord au sud où les taux sont beaucoup plus faibles, voire même très bas dans certains départements. Donc tout le monde sous la même jauge, ça va quand même être compliqué à un moment, surtout que ça a quand même des conséquences économiques et sociales extrêmement forte. Et du coup, on a vu cette semaine quelque chose, Soazig en parlait à l'instant, qui est même surréaliste, les élus qui disaient « confinez-nous ».
Ouais,
donc, au début de l'automne, c'était exactement le contraire. Donc, Jean Castex, qui a été très traumatisé par l'affaire marseillaise, où on avait tenté de faire un couvre-feu du jour au lendemain, et les élus étaient partis en guerre contre Paris. On a mis le couple maire-préfet sous les teignoirs, là, mais peut-être que là, à la faveur de cette sortie de couvre-feu, sortie de confinement, sortie de deuxième vague, peut-être que ça va être une solution possible.
Ça ne veut pas dire que le confinement national, s'il est utile pour lutter contre la pandémie, ne sera pas dégainé à un moment ou à un autre.
L'effet Thanksgiving, c'est-à-dire l'effet Noël, on le saura à la fin de semaine prochaine. Et là, des mesures seront sans doute annoncées ou pas en fonction des résultats sanitaires.
Brice Teinturier, on dit souvent qu'on est un pays qui aime l'égalité et que c'est pour ça que ça avait été si difficile de faire passer des mesures localisées, plus précises pour contenir la pandémie. Vous pensez que désormais, justement parce qu'on a tenté de gérer cette crise au mieux, on est prêt collectivement à assumer qu'un département ou une région soit sous le coup d'un couvre-feu à 18h et pas les autres ?
Oui, je le pense. D'abord, on est un pays qui aime l'égalité, mais on est aussi un pays qui est très contre le pouvoir central et qui s'enflamme assez vite en disant il faut s'adapter aux réalités locales et pourquoi est-ce Paris qui décide pour tout le monde au même niveau. Et puis, je crois qu'il y a tout simplement un effet extrêmement puissant de lassitude, d'inquiétude, et que du coup, ça conduit les Français à regarder les choses aussi au niveau territorial et à se dire, mais si chez moi, on peut faire un peu différemment d'il y a 400 kilomètres, bien sûr qu'il faut le faire. Donc normalement, ça n'aide pas la lisibilité des actions. C'est compliqué pour le gouvernement d'avoir à gérer des actions différentes sur le territoire, mais c'est quelque chose, je crois, globalement, qui est plutôt bien accepté par les Français.
Yves Tréhard voulait dire un mot.
Oui, cette régionalisation, moi, je suis beaucoup plus dubitatif, si vous voulez, parce que même si elle est réclamée cette fois par les élus, ce qui n'avait pas été le cas de l'exemple marseillais, puisque c'est le pouvoir central qui avait décrété le couvre-feu, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout le tissu économique. Et moi, je ne suis pas du tout persuadé que les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, dans certaines régions, soient d'accord pour que le couvre-feu soit avancé à 17 ou 18 heures. C'est loin d'être partagé par tout le monde, même si certains élus locaux le demandent. Donc ça, j'attends de voir. Si vous voulez, si vous avez un chef d'entreprise à Strasbourg qui ne peut pas travailler comme son concurrent qui est à Brest, je ne suis pas persuadé que ça passe très bien.
En tout cas, réussir la campagne de vaccination et plus généralement la gestion de la crise s'invitera sans doute dans la prochaine présidentielle. Ce sera sans doute un enjeu, je pense que vous êtes d'accord avec ça, Brice Teinturier. Et en coulisses d'ailleurs, les manœuvres pour la prochaine présidentielle ont déjà commencé. Un déjeuner entre un conseiller de l'Élysée et Marion Maréchal-Le Pen a bien eu du mal à passer au sein de la majorité. Magali Lacrosse et Julien Launay.
C'était il y a 2 mois, à l'époque où les restaurants étaient encore ouverts. À l'abri des regards, dans un salon privé de cet établissement parisien, Bruno Roger Petit, le conseiller mémoire du président, est attablé avec Marion Maréchal, figure de l'extrême droite. Ils ressortent aussi discrètement qu'ils sont entrés, mais voilà que le déjeuner secret sort dans le monde. Le conseiller de l'Élysée invoque une initiative personnelle.
Je voulais savoir ce qu'elle avait à dire et si elle était en résonance avec l'état de l'opinion, ce qui n'est pas le cas.
Quelques jours plus tard, le président réagit en privé, propos rapportés par le Canard enchaîné.
Je ne fais pas la police des mœurs quand quelqu'un s'encanaille. Dans ce cas précis, je n'avais donné aucun mandat, évidemment, et pour moi, cette rencontre n'a aucune existence ni aucun sens politique.
Circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que pour l'opposition, la rencontre n'est pas anodine et fait réagir à gauche.
On y voit, à mon avis, beaucoup de trous, beaucoup d'interrogations, beaucoup de tests tactiques, sans doute adeptes de ce qu'ils appellent la triangulation, c'est-à-dire brouiller les frontières. Mais moi, il y a un principe en République, c'est qu'on ne brouille pas les frontières avec l'extrême droite. Et tous les présidents, quels qu'ils soient, et leurs collaborateurs aussi, avaient fait attention à ça. Je crois qu'il serait vraiment extrêmement important que cette coutume revienne.
Dans la famille politique du président aussi, le déjeuner d'octobre ne passe pas. Pour le vice-président de l'Assemblée nationale...
Avec l'extrême droite, on ne discute pas, on ne transige pas, on la combat.
Même son de cloche pour la trésorière nationale et cofondatrice de La République En Marche.
Il y a des gens qu'on ne sonde pas à titre personnel. On les combat à titre collectif. Marion Maréchal et toute sa clique en font clairement partie.
Emmanuel Macron était-il au courant de cette rencontre? La ligne de crête politique et officielle de La République En Marche a-t-elle été franchie? À la veille des élections européennes l'année dernière, le discours du président sur le Rassemblement national était pourtant très clair.
Moi, je suis patriote, français et européen. Eux, ils sont nationalistes. C'est différent. Et le nationalisme, comme le disait François Mitterrand dans l'un de ses derniers discours, le nationalisme, c'est la guerre.
Une position bien compliquée à revendiquer aujourd'hui, estime la France insoumise.
Le macronisme face à l'extrême droite, un rempart? Non, un rancard.
Alors faut-il y voir les coulisses d'une stratégie politique d'Emmanuel Macron à l'horizon 2022? Depuis quelque temps, les signaux d'un virage bien à droite semblent s'installer.
Il a toujours emprunté à toutes les formations politiques des références, des termes, des concepts, particulièrement à droite. Ce qui est surprenant, c'est qu'il le fait effectivement à l'extrême droite. Cette rencontre s'inscrit dans une série de signaux depuis l'interview à Valeurs Actuelles sur l'immigration accordée il y a un an, jusqu'aux références très surprenantes à Pétain et à Maurras faites par Emmanuel Macron dans son interview à l'Express. Donc on a tout un ensemble de signaux qui parlent aux nationalistes, à la frange de droite souverainiste, qui sont semés au fur et à mesure.
Avant le lancement officiel de la campagne présidentielle, les tractations politiques en coulisses devraient rester un peu plus discrètes en 2021, jusqu'à la réouverture des restaurants.
Malgré tout, malgré la pandémie, malgré la crise sanitaire et la crise peut-être sociale qui arrive, la politique et la politique aérie continue, Bruno Joly.
Oui, c'est une surprise parce qu'on aurait pu imaginer que ce pouvoir... vierge de passé, qui voulait tourner la page de l'ancien monde, on ne pouvait pas le soupçonner de cette politique en cuisine qui... Voilà, c'est pas nouveau que dans le passé, on a connu ça, sous Mitterrand, sous Pasqua, le flirt ou essayer d'organiser des coups tordus avec des adversaires, et cette fois-ci l'extrême droite, ça a déjà existé. Mais de ce pouvoir, on pouvait difficilement le soupçonner. Eh bien non. Pendant la crise sanitaire, un conseiller du président de la République n'a pas mieux à faire que d'aller déjeuner avec une représentante de l'extrême droite, Marion Maréchal Le Pen. Alors dans ce genre d'affaires, il ne faut pas se faire choper, comme dit l'autre. Mmh. Et là, le problème, c'est que ça s'est su. Alors bon, l'endroit n'était pas le plus discret, c'est une grande brasserie parisienne, pour expliquer à nos téléspectateurs. À l'arrivée, la triangulation, puisque vous savez, c'est le mot, on va un peu chez l'adversaire, pour essayer de montrer à leurs électeurs qu'on n'est pas totalement, qu'on les écoute au moins. Donc là, c'est un petit peu ce qu'a voulu faire le conseiller du président de la République.
Mais c'est aussi ce que fait le chef de l'État, des clins d'œil à l'extrême droite.
Alors le chef de l'État, il n'est pas toujours très clair aussi, parce que lui-même s'est aventuré sur ce terrain. Il a téléphoné à Éric Zemmour un jour, il a donné une grande interview à Valeurs Actuelles. Bon, il y avait peut-être d'autres médias pour le faire. Moi, j'ai rien contre Valeurs Actuelles. Et puis, il multiplie les clins d'œil comme ça vers ce public. Alors bon, c'est de la politique à l'ancienne. Voilà, Macron fait de la politique à l'ancienne, il faut le savoir. Je trouve que cette affaire de Marion Maréchal, à l'arrivée, elle n'est pas très positive pour lui. Pourquoi? Parce que ça rapporte plus à Marion Maréchal, qui dirige une école qui marche mal, qui est quand même plus ou moins en lisière de la politique, et qui, aujourd'hui, pèse pas grand-chose. Donc je ne vois pas trop le bénéfice pour Emmanuel Macron, sinon d'une mauvaise polémique pendant les fêtes, en pleine crise sanitaire, il y a peut-être autre chose à faire. Mmh.
Louis Teinturier, ils ne sont pas mauvais, hein, les sondages. Si on met de côté cette affaire-là et qu'on revient sur la gestion de la crise sanitaire et de la polémique autour de la vaccination, sa cote de confiance, Emmanuel Macron, elle reste stable à 49%. Sa popularité a bondi de 7 points en 2020 avec une crise sanitaire majeure, malgré quelques accidents de parcours. En tout cas, ce n'est pas lui qui est tenu pour responsable de ces échecs.
Il sort renforcé en termes de popularité, en termes de soutien. Il sort aujourd'hui renforcé de la crise du Covid qu'affaiblit. Et il a pris, suivant les différents indicateurs de mes confrères et les indicateurs d'Ipsos, entre 8 et 10 points avant l'entrée dans la période du Covid jusqu'à aujourd'hui. Il a un peu baissé en décembre, mais globalement, c'est un plus 8 ou un plus 10. Et il est bien plus populaire que Nicolas Sarkozy ou que François Hollande, 3 ans et demi après son arrivée au pouvoir. Donc, incontestablement, le réflexe d'unité, le fait aussi que les réformes se sont arrêtées, il ne faut jamais l'oublier. On est polarisé sur le Covid, la protection, la lutte contre le danger sanitaire, le soutien économique, et on a mis de côté les réformes qui clivaient les Français, sur les retraites, sur l'assurance chômage, etc. etc. Donc tout cela a servi pour l'instant le chef de l'État, et cette affaire Marion Maréchal-Le Pen, ce déjeuner avec son conseiller, apparaît assez grotesque dans le contexte actuel. On ne voit pas quel est le bénéfice escompté. Ça fait effectivement politique partisane. Et puis, ça renvoie ce concept de triangulation à quelque chose qui est, pour le coup, assez détestable aussi pour une grande partie de la population. Cette idée qu'on va aller chercher délibérément des thèmes, des références, des symboles dans le camp adverse pour embarrasser ses adversaires, c'est la négation des convictions.
C'est la négation. C'est le « en même temps ». C'est la stratégie d'Emmanuel Macron.
C'est pire que le « en même temps ». Non, je pense que ce n'est pas le « en même temps ». C'est une forme de cynisme en politique. C'est « je vais aller chercher des thèmes qui ne sont pas les miens, qui sont ceux de mes adversaires ». Pour pouvoir embarrasser mes adversaires. Ce n'est pas une conviction qui vous amène à dire « je vais prendre ceci à droite et à gauche parce que j'estime que c'est bien ». Et ça, c'est à l'opposé de ce qu'était la promesse macronienne de faire de la politique autrement.
Si nous revenons à ce Emmanuel Macron dans la seringue, puisque c'est le titre de notre émission, Yves Tréhard, et au vœu de ce soir, est-ce que cette fois-ci, c'est sa 9e intervention ? Il a beaucoup parlé aux Français pendant cette crise sanitaire. Que peut-il leur dire de plus ?
Bah, écoutez, je pense qu'il va... En fait, l'année 2020, elle a été marquée par 3 crises. Vous avez la crise sanitaire dans laquelle nous sommes et qui n'a pas toujours été bien gérée, même si c'est un peu pareil à l'étranger, mais avec ce défi de la vaccination, il va sans doute en toucher un mot, parce qu'il le sait, il y a une impatience dans ce pays à laquelle les autorités et le gouvernement ne répondent pas, et donc il va être obligé de rassurer sur ce plan-là. Il va être obligé de rassurer sur une deuxième crise, qui est la crise sécuritaire, avec la France qui a été touchée par... 3 attentats depuis les vacances d'été, des attentats absolument horribles, dont la décapitation du professeur Samuel Paty, et puis on le voit avec la mort dans le Sahel, dans une guerre contre un ennemi quasi invisible, qui est difficile à appréhender, et la France est là-bas depuis 7 ans. Donc il va être obligé de parler de cette crise sécuritaire, parce que les Français ont une autre raison d'avoir peur, c'est aussi le terrorisme. Et puis, il y a une troisième crise qui n'a pas été réglée, et c'est la crise sociale, puisqu'il y a eu les Gilets jaunes en 2019. Mais je vous rappelle que quand le Covid est arrivé en France, eh bien, nous étions en plein dans le débat sur la réforme des retraites. Et donc, il y a une partie des Français qui était très en colère, qui ne voulait pas de cette réforme. Et donc, le gouvernement et Emmanuel Macron lui-même, et je dirais, face à un pays qui est quand même très éruptif, qui est un pays qui a peur et qui est un pays qui ne réserve pas sa confiance, même si les sondages montrent que pour Emmanuel Macron, eh bien, il est à un bon niveau de popularité, je pense quand même qu'il y a dans ce pays aussi cette défiance. Donc ça fait quand même beaucoup de choses que le président de la République, beaucoup de sujets que le président de la République doit aborder, parce qu'il va sans doute nous dire que ce n'est pas parce qu'il y a le Covid qu'il ne faut pas continuer à réformer. Et il va sans doute nous parler de réformes à venir. Donc il va avoir un message qu'il faudra bien calibrer et qui risque d'être quand même, qui aura une résonance, quoi
qu'il
arrive.
Vous pensez, Yves Tréhard, qu'il peut arriver avec un message volontariste en matière de réforme et qu'il est attendu là-dessus, en ce moment ?
Oui, parce que je pense que, je ne sais pas s'il est attendu là-dessus, mais ce que redoute par-dessus tout le président de la République, c'est que finalement son quinquennat se résume à la gestion de cette crise sanitaire. Or, je vous rappelle qu'il était arrivé en France pour changer au pouvoir pour changer les choses, pour faire en sorte que ce pays se transforme. Et il ne veut certainement pas arriver à l'élection présidentielle de 2022 avec une gestion sanitaire qui, on va voir avec la vaccination, mais qui fait l'objet de beaucoup de critiques. Mmh. Il veut montrer qu'il avance et qu'il ne se fait pas, qu'il n'est pas intimidé par cette crise sanitaire, qu'il n'est pas empêché par cette crise sanitaire.
Une question pour vous sur Asie Kemener de Gérard dans les Vosges. Il nous dit est-ce un président en campagne pour sa réélection qui va nous parler ce soir ?
Oui, alors effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Yves Tréhard, c'est qu'il a besoin de tracer des perspectives, Emmanuel Macron, parce que son projet politique, c'était de réformer la France, l'émancipation individuelle, un optimisme. C'est très dur d'apporter de l'optimisme dans une période comme celle-là, mais en même temps, c'est ça, c'est raison d'être politique. Donc toute la difficulté pour lui ce soir, c'est de pas nier la crise sanitaire qui va continuer encore pendant une bonne partie de l'année 2021, et en même temps, commencer à ébaucher ce qu'il a envie de dire aux Français pour 2022. Il l'a lui-même sous-entendu lors de son interview aux médias en ligne Brut, quand il a dit « peut-être que je ne pourrais pas me représenter parce que j'aurais fait des réformes trop dures dans la dernière partie de mon quinquennat », mais l'idée c'était de dire « j'ai fait quelque chose dans la dernière partie de mon quinquennat », et c'est ce que disait Clément Beaune d'ailleurs ce matin, il est secrétaire d'État aux affaires européennes et c'est un des proches de l'Élysée, et il expliquait qu'il ne fallait pas parler de Covid matin, midi et soir, donc il y a la nécessité de réinstaller un récit. Alors, en même temps, c'est ce qui avait été tenté, souvenez-vous, cet été, en disant « on va rentrer avec cette idée de la relance ». Et donc, on va revenir aux fondamentaux du macronisme. Tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire le plan de soutien, c'est hors doctrine. En revanche, le plan de relance, c'est vraiment la doctrine du macronisme. On retrouve nos essentiels, on retrouve exactement ce qu'on voulait faire de la France. Et donc, on voit bien que pendant toute la crise sanitaire, le président est empêché de faire ce qu'il voulait faire. On parle un peu de l'assurance chômage et puis on repart en arrière. On parle un peu de la réforme des retraites via notamment Bruno Le Maire qui a relancé le débat il y a quelques semaines. Et puis on repart en arrière. On est dans des allers-retours permanents parce que ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron, c'est de faire revenir son programme sur le devant qui est finalement assez peu changé par rapport à 2017. Il disait « nous allons nous réinventer et moi le premier », c'est ce qu'il avait dit lors de l'une de ses interventions au moment de cette crise. Mais pour l'instant, la volonté, c'est toujours à la fin de faire à nouveau surnager ce projet de 2017, ce projet d'émancipation collective, à la fois mérite républicain, émancipation individuelle, mérite républicain. Donc ça va être ce qu'il va tenter de faire entendre, même si c'est très difficile de passer entre les gouttes de la crise.
Alors il paraît que ce soir, il y aura trois mots-clés. C'est ce qu'a laissé entendre l'Élysée dans les papiers, dans la presse ce matin. Vérité, espoir et unité. Bon, on attendra 20 heures. Les oppositions politiques ont bien du mal à se faire entendre pendant cette période. À gauche, avant de trouver les mots pour affronter Emmanuel Macron lors de la prochaine présidentielle, on cherche avant tout une stratégie pour relever un défi essentiel pour l'électorat de gauche, bâtir une candidature unique, et vous allez voir, c'est pas gagné. Laura Rado et David Lemarchand.
Il nous faut une candidature unique d'un rassemblement qui va entre Mélenchon et Macron.
Il faut rassembler à la fois le Parti Socialiste, les Verts, peut-être d'autres.
Il faudra ensuite rassembler la gauche.
Le rassemblement, ils n'ont que ce mot à la bouche. Avant les régionales de juin prochain, et surtout à 18 mois de la présidentielle, la gauche veut se mettre en ordre de bataille. Pour une écrasante majorité des sympathisants, 72%, la question est tranchée. Une candidature unique s'impose en 2022. Mais alors qui pour incarner cette alliance ? Dans la course à l'Élysée, lui est officiellement candidat de la France insoumise.
Oui, bien sûr, je vous l'ai dit, je m'étais engagé dès lors que cette investiture populaire serait réuni à le faire, je le suis.
Et puis il y a celui qui ne se cache pratiquement plus. L'eurodéputé Yannick Jadot se verrait bien porter les couleurs des écologistes.
Je m'y prépare parce que je pense que nous avons besoin, dans notre pays, en 2022, d'une alternative, qui soit une alternative enthousiasmante.
Dans la famille des présidentiables, il y a aussi ceux qui tâtent le terrain. La première dame parisienne notamment. Portée par son succès au municipal, elle a multiplié récemment des signes d'intérêt pour la fonction suprême.
Ce que j'ai toujours dit, c'est que, en tous les cas, je prendrai ma part. Et ce que je fais ici, je me dis si ça peut être utile à ma famille politique, au pays aussi, pour se donner des alternatives. Moi, je ne veux pas qu'on rentre dans l'élection de 2022 en se disant il n'y a pas d'autre alternative.
Et si la maire de Paris paraît encore hésiter, d'autres socialistes se chargent de l'encourager. La situation
sanitaire. Je considère que Anne Hidalgo a l'étoffe pour être à la fois une bonne candidate et une bonne présidente de la République.
Anne Hidalgo, une candidate sérieuse, qui arrive pourtant chez les électeurs de gauche derrière Christiane Taubira, la très populaire ex-garde des Sceaux qui préfère pour le moment garder le silence depuis sa Guyane natale. Mais alors que les appétits s'aiguisent, l'unité politique se fissure. La dernière offensive est venue d'Anne Hidalgo, justement, contre ses alliés écologistes, à qui elle a reproché des positions confuses sur la laïcité.
J'ai souvent cette discussion avec eux et je leur dis, moi j'ai un problème, c'est votre rapport à la République. Ce problème de rapport à la République, il doit être clarifié.
Une attaque qui a provoqué la fureur des responsables d'Europe Écologie Les Verts.
Nous demandons des excuses de la part d'Anne Hidalgo. Elle doit retirer ses propos, il n'y a aucune ambiguïté sur la République pour les écologistes. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle pense à 2022.
Des Verts qui engagent aussi la discussion avec la France insoumise. Mais pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, le chemin vers des listes communes aux prochaines élections est un parcours semé d'embûches.
L'unité n'est pas un programme. Si on doit se retrouver pour faire équipe, il faut que ce soit à la condition de la clarté absolue. Parce que cette clarté est une nécessité face à l'abstention et pour que les gens sachent clairement où nous allons et que ça ne soit pas la tambouille politique des accords finalement autour d'un coin de table.
Compliqué également de choisir un champion en pleine crise sanitaire, quand aucune voix n'arrive véritablement à se faire entendre à gauche. À l'image des déclarations de Yannick Jadot sur le vaccin, à rebours de la position de son parti.
Il faut qu'il soit obligatoire.
Oui. On ne peut pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période d'affaissement culturel, social, économique de notre pays.
La gauche qui aura également tenté de critiquer la politique jugée liberticide d'Emmanuel Macron.
Avec la crise sanitaire, le président décide seul dans le bunker du Conseil de défense. Notre démocratie ne peut pas être ainsi mise sous cloche.
Et il y a enfin les communistes. Après avoir fêté son centenaire, le parti de Fabien Roussel plaide pour sa propre candidature en 2022.
Et cette question, 2021 sera-t-elle l'année des faillites, de la grogne, des petits commerces, du retour des gilets jaunes? Une question de Brice de Paris, je précise que ce n'est pas vous. Vous envoyez vos propres questions, Brice Tinturier.
Non, je ne fais pas. Mais oui, bien sûr, la question centrale va être une question aussi sociale, avec la possibilité d'une reprise de la grogne, notamment de ceux qui auront le plus souffert de la crise du Covid. Et on n'est absolument pas à l'abri d'un mouvement social puissant. Je rappelle que les inégalités, aujourd'hui, c'est la première des préoccupations des Français. Ce n'est pas un souci ou une demande de transformation ou de réforme. C'est plutôt un souci de consolidation de la protection et de réponse à des inégalités qui se creusent. Donc on peut avoir encore des mouvements sociaux, de revendications, de contestations, de protestations extrêmement puissants.
Et ça donne un espace à la gauche ?
Oui, moi je trouve aujourd'hui que dans ce moment politique au fond qui est un peu gelé, parce que finalement cette année 2020, ce coronavirus aura gelé un peu l'espace politique, même si, Brice le rappelait tout à l'heure, Emmanuel Macron a progressé dans les sondages. Mais globalement, personne n'a émergé. En revanche, le président de la République s'est déplacé vers sa droite et, à mon avis, il a ouvert quand même le champ des possibles à gauche. Alors, personne, pour l'instant, n'émerge vraiment. Mais on voit bien que sur les derniers mois, il y a quelqu'un, à mon avis, qui commence un peu à frapper à la porte ou, en tous les cas, à se positionner, à faire des interviews assez intéressantes. Ça reste quand même Anne Hidalgo, qui a un potentiel, qui est à la fois un espoir pour la gauche, qui est la candidate écolo si demain elle décide d'être candidate, parce que c'est la maire qui met le plus en œuvre des mesures écologistes, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Là n'est pas la question. Et je pense que Emmanuel Macron a sans doute ouvert un espace à gauche, que sur le social, son bilan sera quand même discutable. Il n'a pas une mesure importante, il n'a pas une mesure sociétale ni une mesure sociale très importante à faire valoir. Il a pris le risque de dégager ce flanc-là. On verra ce qu'il en est. Je n'exclus pas que d'ici la fin du mandat, il tente quelque chose sur ce terrain-là, parce qu'il sait bien que, Yves Tréhard le disait tout à l'heure, son quinquennat ne peut pas se résumer à celui des crises. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient du mandat d'Emmanuel Macron ? Les crises, il n'y a pas une mesure forte. On se dit, tiens, Hollande, on savait qu'il y avait ça, Sarkozy, on savait qu'il y avait ça, et les autres précédemment aussi.
Swazik Kemener, si on revient juste un instant sur la question de la vaccination et des oppositions politiques, on a moins entendu la gauche sur ce sujet-là, sur la lenteur de la campagne de vaccination. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient moins présents dans le débat politique ces derniers jours, ou est-ce que c'est un sujet sur lequel ils avancent à pas compter ?
Alors effectivement, il y a une prudence qui est finalement assez proche de la prudence, de la première prudence gouvernementale. Il y a toujours l'inquiétude de savoir comment ceux qui sont contre le vaccin vont réagir en fonction, devant des positions pro-vaccin ou qui demandent une accélération. Il y a quand même Valérie Rabault, qui est la présidente du groupe PS à l'Assemblée, qui s'est exprimée sur la question en demandant d'accélérer, mais on est dans une opposition, c'est vrai, assez mesurée. De son côté, la France insoumise, elle réclame de la planification depuis déjà le début de la pandémie, donc on est toujours sur un discours qui se ressemble un petit peu, mais c'est toute la difficulté qui était exposée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est très difficile pour l'opposition de se faire entendre, à moins d'être vraiment dans une opposition frontale, dans une crise. Emmanuel Macron, il est central dans cette crise, puisqu'il est évidemment le président de la République, il est en plus le président d'une 5e République, il est en plus un président qui a décidé de prendre directement les commandes de la réponse à cette pandémie via le Conseil de défense. Donc il y a très très peu de place pour que l'opposition soit entendue. On parlait tout à l'heure de la manière dont le paysage politique est gelé. C'est aussi lié à ça, mais il y a aussi une volonté manifeste d'Emmanuel Macron, en parlant de cette façon-là à la droite aussi, de bloquer toute sortie politique. Et puis à gauche, c'est vrai qu'ils sont de toute façon les responsables de gauche dans une stratégie d'empêchement. Qui empêche qui, hein ? Le PC empêche Jean-Luc Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon empêche le reste de la gauche. Donc c'est ce qui permet à Emmanuel Macron d'être assez serein finalement sur ce flanc-là.
Yves Tréhard, on a entendu la gauche taper sur des mesures qui étaient liberticides et puis finalement ça n'a pas pris. On a entendu la droite dire il va falloir à un moment donné se poser la question des finances publiques et puis ils ont lâché prise. Tout à l'heure, l'expression était utilisée par Bruno Jeudy qui disait le débat politique est gelé. Elle va être compliquée à construire cette prochaine campagne présidentielle pour ces partis politiques-là quand il va falloir tirer les leçons d'une crise sanitaire et trouver autre chose à raconter aux Français.
Elle est compliquée parce que, comme on l'avait dit en 2017, Emmanuel Macron a fait imploser le paysage politique et ce paysage politique ne s'est pas reconstruit depuis. Et je dirais même que avec la crise sanitaire, eh bien, ça a retardé, si vous voulez, la possibilité d'une reconstitution du paysage politique. Et je dirais que il y a même eu des moments où on était dans des instants d'union. D'unité en tous les cas nationale, en tous les cas au début de la crise qui avait complètement gelé tout débat. Voilà. Alors aujourd'hui, je crois qu'effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec mes trois confrères, consoeurs et Brice, pour dire que Emmanuel Macron doit quand même faire attention à ce qui se passe à gauche. Effectivement, moi je pense qu'il y a un grand espace à gauche entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et que la figure tout à fait légitime pour conduire une gauche recomposée social-démocrate de la maire de Paris est en train petit à petit de gagner du terrain.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Pourquoi le nombre de vaccinations pratiquées par jour en France paraît-il dérisoire, voire risible, comparé à nos voisins européens ? Bruno Jeudy.
On l'a dit, une stratégie de lenteur, d'explication, de pédagogie, ce sont les explications du gouvernement. En réalité, il y a sans doute un problème de logistique pour caler le début de cette campagne vaccinale. Ça tient aussi sans doute au choix qui a été fait, c'est-à-dire un choix délocalisé. On amène les doses vers les EHPAD, alors que dans les autres pays, l'Allemagne a investi près de 60 millions pour ouvrir des vaccinodromes, ce qui est une différence fondamentale. Alors là, tout à l'heure, vous disiez que Olivier Véran, apparemment, allait ouvrir finalement des vaccinodromes. Ça sent quand même un peu la panique et on voit bien qu'Emmanuel Macron doit commencer à s'agacer de ce début de campagne cafouilleux, pour ne pas dire pire.
On rappelle que c'est fait sur Twitter, 2 heures avant l'intervention du président.
Ça sent la panique.
Allez, consentement, visite médicale, fichier de suivi, n'y a-t-il pas de quoi achever de décourager les Français de se faire vacciner ?
C'est aussi un peu ce qu'on disait, c'est que pour les hésitants, moi je ne suis pas du tout certain que le fait de prendre autant de précautions soit un levier de lever du doute, c'est tout l'inverse. Je pense qu'au contraire, c'est l'accélération, la preuve, le fait de montrer que ça marche et que ça marche bien qui peut le plus efficacement lever ses doutes.
Masque, test, vaccin, appli anti-Covid, peut-on dire que cette crise n'a pas été bien gérée ? C'est Frédéric dans le Maine-et-Loire qui se pose cette question, Yves Tréhard.
Oui, on peut toujours critiquer, mais si vous voulez, on voit que partout en Europe, en tous les cas, et aux États-Unis, eh bien, ça a été, cette crise a révélé des failles énormes. Il y a un pays, me semble-t-il, qui s'en sort un petit peu mieux, où on a vu que la gestion était plus rigoureuse, c'est l'Allemagne. En fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on a une médecine en France qui est une médecine de très très haut niveau, avec des très grands professeurs de médecine, mais que l'organisation médicale est excessivement lourde, elle est bureaucratique. Là où en Allemagne, vous avez 2 soignants pour 1 administratif, en France, vous avez 1 administratif pour 1 soignant. Et là, tout est dit. Ouais. Et les Français ont découvert que leur capacité, je dirais, hospitalière était largement endommagée, probablement faute de l'avoir réformée depuis longtemps. Et en tous les cas, ils ont découvert que là, on n'était pas au niveau d'une grande nation comme la France.
Même si vous faites bien de rappeler, Yves Tréhard, qu'au final, les Français se sont rendus compte aussi pendant la gestion de cette crise que tous les exécutifs, à un moment donné, se sont retrouvés tour à tour en difficulté.
Oui, c'est vrai, mais ils sont plus sévères en France vis-à-vis de l'exécutif que dans les autres pays. Et puis, je crois surtout que le gouvernement n'est pas parvenu à imposer une grille de lecture de son action en matière de lutte contre le Covid. Cette grille de lecture, ça pourrait être le nombre de morts ramenés à la population globale. Ça pourrait être la saturation ou pas de services hospitaliers. Ça pourrait être la rapidité de mise en place d'un nombre de mesures. Finalement, elle n'a jamais été posée, cette grille de lecture. Et c'est pour ça aussi que les jugements flottent et évoluent. Parce qu'il n'y a pas un critère qui est apparu comme le critère de lecture légitime de la qualité ou de la non-qualité de l'action
gouvernementale. Le nombre de morts, ça ne suffit pas comme critère de lecture ?
Il n'a jamais été posé comme ça, mais je pense que le nombre de morts rapporté à la population globale pourrait être un des critères qu'il faudrait raffiner. Parce que quand vous êtes dans un pays comme le Mexique, où vous avez des problèmes sociaux lourds, bien évidemment, vous ne pouvez pas comparer le nombre de morts à un pays comme la France. Mais en tous les cas, ça pourrait être un critère. Je remarque juste qu'il n'y a pas eu un élément comme ça qui s'est imposé.
La réélection d'Emmanuel Macron dépend-elle de la réussite de la campagne vaccinale ? Swazik Kemener.
Alors, c'est en tout cas ce qu'il a entendu de la part de ses proches qui très tôt l'ont alerté en lui disant attention, il y a des choses qui ont été ratées, les Français ne sont pas prêts d'oublier ce qui s'est passé au début de l'épidémie pendant la première vague. Donc il faut faire très très attention à la vaccination. Mais en même temps, le gouvernement était un peu pris de court, c'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait des résultats positifs, parce que les résultats sont quand même très rapides quand on a appris la possibilité d'accéder à ce vaccin Pfizer. Le gouvernement ne s'attendait pas à ce que ça vienne si vite. Donc très vite, Emmanuel Macron a été alerté, il faut faire très attention à la vaccination, mais la stratégie qui a été mise en place sur la vaccination, c'est une stratégie nationale, comme si on n'allait pas voir ce qui se passait de l'autre côté des frontières. Donc, quand on compare, effectivement, le différentiel de chiffres est énorme, mais l'idée, c'était d'avoir une campagne très éthique. C'est-à-dire, on prend le temps, on va dans les EHPAD, on sait que c'est compliqué, qu'il y a peu de personnel dans les EHPAD, qu'il y a un manque criant même de personnel dans les EHPAD, donc il faut prendre le temps d'expliquer. L'idée, c'était ça, c'était de dire, on fait les choses en douceur auprès des aînés, et ça n'a pas du tout marché comme modèle de communication.
Comment Emmanuel Macron peut-il être aussi populaire alors que les réformes promises ne sont pas passées ?
Parce que la crise du Covid a tout écrasé. Et Emmanuel Macron s'est trouvé quand même confronté à cette crise, comme l'avait été Valéry Giscard d'Estaing avec la hausse du pétrole, comme l'avait été Nicolas Sarkozy avec la crise financière. Bon, c'est cette crise qui a percuté le mandat d'Emmanuel Macron et qui fait que pour l'instant, on ne le juge pas sur ses réformes ou non-réformes.
Comment expliquer aux restaurateurs dont les établissements seront fermés que l'on prend du temps pour vacciner ?
Ça, c'est l'autre aspect. Brice, tout à l'heure, disait que le risque d'agrégation des colères en 2021, effectivement, il y a des catégories de la population, des métiers qui sont les plus sinistrés. En quelque sorte, le pouvoir a fait une croix sur ces catégories-là. Alors, pour l'instant, elles sont soutenues financièrement. Je crois que le défi du gouvernement, c'est lorsque le quoi qu'il en coûte, le robinet du quoi qu'il en coûte va commencer à se fermer. On dit que ça pourrait être à peu près autour du février-mars. Et là, il y aura un vrai défi pour Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va être capable de faire redémarrer le pays ? À ce moment-là, ça lui sera crédité. Ou est-ce qu'on continuera à s'enfoncer dans la récession ? C'est le challenge de 2021 pour le président de la République.
Les vœux présidentiels seront-ils consacrés à la crise sanitaire ? Quel autre thème Emmanuel Macron abordera-t-il ? Allez, Yves Tréhard.
À mon avis, il va accorder beaucoup de place à cette crise sanitaire parce qu'il va être obligé, effectivement. Ouais. Vous savez, il y avait deux piliers dans la politique de Emmanuel Macron, c'était libérer et protéger. Et là, il est dans la protection. Protéger vis-à-vis de la crise sanitaire et protéger vis-à-vis de la crise sécuritaire aussi. Ça va être les deux, à mon avis, les deux points sur lesquels il va insister.
Bon, gauche exsangue. Ah non, la crise sanitaire est déjà assez difficile à gérer au quotidien. Si on nous impose des réformes sociales, je ne le supporterai pas.
C'est un peu ce que je disais, une partie de l'explication de la popularité d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne réforme pas, donc ça ne cliffe pas. Mais en 2001, vous verrez que vous aurez le dégel, moi je crois, des oppositions qui vont revenir à la charge sur ces questions de réforme.
Ben, ce sera bientôt, le dégel des oppositions, vous dites Brice Teinturier. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission en direct. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir. Très belle soirée à vous tous, très beau réveillon et je laisse le soin à Bruno Duvic demain à 17h50. Le choix de vous souhaiter à tous une très belle année.